Rosny est né. La bonne blague. Le soir, les étudiants se rencontraient au café de la Tramontane avec un garçon frais, ahuri et timide. Il venait de Langres, patrie des couteliers de l'empereur des polygraphes Denis Diderot. Ce garçon s'asseyait dans une encoignure, commandait une demi-tasse et écoutait en silence, avec admiration. Il n'était pas bête, il était même fort intelligent, mais pour l'usage de la vie, il ne valait guère mieux qu'un imbécile, car il avait toutes les gaucheries d'une tourte et toutes les ferveurs d'une poire. Sa timidité, constellant le tout, en faisait une de ces victimes dérisoires qui sont destinées au gaudissement des hommes et à la hardangue des femmes. Son silence seul le préservait un peu. Il écoutait les gens qui, pendant 2 heures d'horloge, sans desserrer les mâchoires, tandis que ses yeux, d'outre-mer, fixaient l'ambiance fuligineuse. Au fond, il avait un seul rêve, qu'aucune raillerie ne pouvait atteindre. Ce rêve était le plus simple de tous les rêves. Il voulait être aimé par une honnête fille. Ce sont, dit l'autre, de ces choses qui arrivent. En tout cas, ça ne lui était pas arrivé. Vraisemblablement, ça ne lui arriverait pas. Il approchait de sa 29e année et devenait de plus en plus timide, ahuri, gourde, poire et taciturne. Si encore il avait eu de la famille, mais il était orphelin, ou s'il avait eu une vieille amie, mais il n'avait que des camarades. En sorte qu'aucune honnête fille ne l'avait vu autrement que saugrenue et même grotesque. Quant aux autres, elles se bornaient à fondre sur lui par intervalle et à l'induire à des opérations fructueuses. Il avait à leur égard d'autres défenses que l'inertie. Assis dans son encoignure, il les laissait dire dans un geste ni une syllabe. Parfois, cependant, l'une ou l'autre empoignait sur un trottoir désert et le forçait à gravir des escaliers inconnus. Après quoi, elle l'entolait avec verve. Nous connaissions sa marotte, et nous lui avions déjà servi plusieurs choucroutes garnies sur les espèces de la Grande Sophie, de Julia Moustache, de Mimi Fontaine Saint-Michel et de la Môme Fourchette. Ces donzelles avaient joué les mascottes à la détrempe. Comme elles manquaient de talent, leurs blagues avaient été éphémères. C'est alors que Guillaume Fortune eut une bonne idée. Il existait aux 6 françaises une petite modiste dont un satyre avait arraché le nez avec les dents et à qui, par surcroît, il avait fait une blessure terrible à la joue. La midinette en était restée fort laide et même hideuse. Elle s'en désolait, car elle possédait une âme tendre. Aucun mâle n'avait plus cure d'étrancher cette tendresse, d'autant plus que Christiane ne comprenait l'amour que sous sa forme la plus sociale, je veux dire la fondation d'une famille. Elle chiffonnait donc des chapeaux avec chagrin et ne se faisait pas de l'univers une idée très avantageuse. Guillaume Fortune, qui la connaissait à travers les potins de petites amies, se ligua avec Cécile Boulot pour cuire sa farce. Cécile apprit donc à Christiane, qu'on rencontrait au café de la Tramontane, un type qui s'était amouraché d'elle. Christiane n'en crut pas un mot, mais Cécile lui montra le type, un jour qu'ils passèrent rue Saint-Sulpice, et lui fit remarquer qu'il avait baissé les yeux, et qu'il était devenu tout rouge. Elle ne manquait pas, car elle avait manœuvré de manière à barrer la route à Jacques de Gênes, ce qui lui suffisait pour plonger ce jeune homme dans un abîme de consternation. Cet incident frappa Christiane, et comme elle passait par une crise, elle se laissa aller à sa chimère. Cécile la chauffa pendant quelques jours et finit par lui dire: « Tu sais, le type est si extraordinaire qu'il faudra d'abord se mettre à la correspondance. Car pour ce qui est de faire connaissance de but en blanc, il serait capable de se ficher un évanouissement. » De son côté, Guillaume entretint de graines d'une demoiselle inconnue qui lui voulait du bien. En sorte que la petite au nez coupé et le jeune homme de Langres échangèrent des billets par l'intermédiaire de Cécile Bouleau. Ces billets furent dangereux. Ils reflétèrent avec loyauté des âmes qui étaient nées pour s'entendre. Par ailleurs, la monodice ne fit que des allusions lointaines et incompréhensibles au malheur qui la privait de narines. Elle jugeait inutile d'en discourir, puisqu'enfin, de graines ne le pouvait ignorer. Ce qui facilitait aussi le dialogue, c'est qu'ils ne se rencontrèrent pas, et que dans sa timidité, le garçon n'osa solliciter aucune entrevue. Ses lettres n'exprimaient que de naïfs états d'esprit, opiniâtrement photoniques, platoniques. Tout de même, il fallait des conclusions. Cécile Bouleau et Fortune résolurent qu'une rencontre aurait lieu au musée du Louvre, au fond d'une salle peu hantée, devant la déesse Hathor. Jacques de Graines devrait apporter un pétillon de rose et Christiane une gerbe de lilas. C'était un matin. La salle était plus déserte que jamais, mais les compagnons de la Tramontane veillaient, cachés derrière des colonnes et des sarcophages. Jacques se présenta tout d'abord avec ses roses, tremblant de tous ses membres. Puis l'on vit paraître Christiane, qui tenait héroïquement la gerbe de lilas. Ils demeurèrent interloqués l'un en face de l'autre, pour la grande joie des camarades épars parmi les sphinx. Et la voyant si laide, De Graines avait reculé d'un pas. Mais aussi, parce que cette laideur le rassurait, il osa regarder Christiane. Elle était fort pâle. De ses yeux, dilatés par les mois, s'élevait une expression pathétique qui les rendait plus féminins et plus beaux. D'ailleurs, hors les traits abîmés par le satyre, tout le visage ne décelait que des lignes pures et des nuances fraîches. Et Jacques songea « Elle a été jolie !» Et comme il avait une imagination active, il recomposait le nez disparu et la joue mâchurée. Puis il se dit encore « Ce n'est qu'un accident, au fond, tout ce que l'espèce voulait d'utile et voulait d'elle, elle le possède encore. Ses enfants seront aussi jolis que s'il lui était rien survenu. Ce qu'il y a de réel et durable dans sa beauté n'a subi aucun dommage. Elle a l'air laide, mais elle ne l'est pas. » Ses réflexions, jointes à son désir d'être aimé, lui causèrent une légère griserie. Il s'avança vers Christiane, lui prit la main, presque sans gaucherie, et y déposa un long baiser. La petite main était fraîche, flexible, un peu tremblante et finement veloutée. Jacques, d'abord balbutiant, retrouva au fond de lui des paroles qui dormaient depuis des années et qui avaient une douce véhémence. Et le cœur chaud, l'âme fleurie, ils sortirent de la haute salle froide. Ils marchèrent à petits pas vers le bonheur, tandis que les compagnons de la Tramontane, derrière les colonnes de granit et les antiques sarcophages, s'esclaffaient abondamment.